Bienvenue dans Aubercail, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Cordier. Bonjour Romain.
Salut Caroline.
Romain, je te présente. Tu es un entrepreneur de 29 ans. Si je reviens un petit peu en arrière, tu as été ingénieur BTP de formation pendant 3 ans. Tu as travaillé dans un bureau d'études en maîtrise d'œuvre sur des projets de travaux divers et variés. Puis en 2020, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en créant la société Plateo. Donc ta grande problématique à laquelle tu réponds depuis le départ, c'est comment permettre une collaboration efficace entre les personnes qui ont besoin de réaliser des travaux et les artisans. Donc en fait, tu te positionnes comme un tiers de confiance. Pour pimenter un petit peu le tout, ta grande particularité, c'est que tu t'es spécialisé en 2021 depuis une rencontre avec un tuteur, donc un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans l'entretien des logements des personnes sous mesure de protection. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu en connais un rayon sur les artisans, comment les comprendre et surtout, comment les qualifier. Donc, j'ai hâte d'en discuter avec toi. Et est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Romain ?
Oh, c'est hyper complet, c'est dans le bon ordre, donc non, c'est parfait, tu as tout bon sur toute la ligne.
Cool, j'ai bien fait mes recherches, j'ai bien fait mes devoirs. Eh bien écoute, si c'est tout bon pour toi, je te propose de commencer cet épisode par un petit jeu, donc pour se mettre directement dans le sujet. Est-ce que normalement tu m'as préparé une vérité et deux mensonges, donc sur notre thématique des artisans du jour. Je t'écoute pour me les donner et puis à moi de trouver les bonnes réponses, quoi. Enfin la bonne réponse.
Allez, c'est trois affirmations. La première, c'est qu'il y a aujourd'hui 25% de logements passoires énergétiques en France. Donc passoires énergétiques, c'est les classes de consommation F ou G. La deuxième affirmation, c'est qu'il y a 5% de logements peu énergivores. Donc, c'est l'opposé de passoire énergétique, classe A ou B. Et la troisième affirmation, c'est que grâce à MaPrimeRénov', eh bien, on peut financer l'intégralité des travaux pour de la rénovation énergétique.
Alors, je vais le prendre à l'envers du coup. Pour la prime Rénov', je ne pense pas qu'on peut financer l'intégralité des travaux. Donc, pour moi, elle est fausse. La deuxième, est-ce que tu peux me la redire ?
La deuxième, c'est qu'il y a 25% de logements passoires énergétiques sur le parc immobilier français.
Je ne suis pas sûre du chiffre, donc... Ok, et la première, c'était
5% de logements peu énergivores.
Allez, je vais dire que la vraie, c'est la première.
Les peu énergivores, du coup, les 5%?
Ouais, peu énergivores.
C'est ça, c'était trop simple.
Yes. Non, il y a eu beaucoup de réflexion, tout ça, donc ok. Est-ce que tu peux nous remettre un tout petit peu de contexte, du coup, sur tes trois phrases, et puis pour voir pourquoi tu as choisi
En fait, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai fait ces recherches, c'est de voir qu'il n'y a que 5% des logements aujourd'hui qui sont de classe A ou B en France, donc ça m'a paru assez peu comme chiffre. De l'autre côté, en fait, je me suis rendu compte que dans l'extrême opposé, c'est pas 25% en fait de logements en passoire énergétique, c'est moins. Donc c'est assez rassurant, c'est 17%. Et j'ai voulu un peu nuancer ça avec la solution pour ces passoires énergétiques, c'est de faire des travaux de rénovation énergétique avec MaPrimeRénov', qui malheureusement ne couvre pas l'intégralité des travaux de rénovation. C'est en fonction des revenus entre 35 et 50%.
Il y a des paliers, effectivement, je crois, pour la MaPrimeRénov'.
C'est ça.
Sur lesquels on peut se fier. Ok, super. Eh ben écoute, je te propose de passer directement sur le sujet. J'ai une question un peu bête pour commencer, mais je pense que c'est bien de le définir. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est un artisan pour toi ? C'est quoi un chantier ? C'est quoi un artisan sur un chantier ? Comment tu peux le définir ?
Ouais, c'est vachement important. Pour moi, ce que je vais catégoriser d'artisan, c'est en général... artisan au sens propre, la personne qui réalise des travaux, qui a un agrément d'artisan. Mais c'est aussi pas forcément que des gens qui travaillent seuls à leur compte, c'est aussi pour moi des entreprises qui regroupent des ouvriers. En fait, c'est vraiment pour moi les entités qui vont réaliser les travaux, qui font tout le travail manuel de réalisation des prestations. Donc globalement, on va parler, quand je dirais artisan, c'est ça, que ça soit celui qui a son compte ou la plus grosse entreprise. Moi, en général, ce qu'on va parler dans l'échange, c'est vraiment des travaux plus à taille humaine, on va dire. C'est pas des constructions de bâtiments, d'écoles, etc. Donc, ça sera plutôt des entreprises à taille limitée. Et voilà, dans l'idée artisan, celui qui fait les travaux. Chantier, ben, c'est pour moi, ça commence avant de vraiment de réaliser les travaux. C'est toute la préparation, c'est toutes les étapes qui mènent à mener à bien un projet de construction ou de rénovation. C'est pour moi toutes ces étapes-là, quoi. Vraiment de A à Z, à partir du moment où on a un besoin de travaux jusqu'à la réalisation et la réception de ceci.
Ok. Et du coup, bah, dans ton expérience, parce que t'as une expérience quand même un petit peu dans le secteur, comment s'est passé les relations entre les artisans et les particuliers? Comment ça se passe, justement, de cette relation de A à Z pour faire ces travaux?
Globalement, c'est forcément un peu compliqué. Moi, il y a un truc qui est flagrant que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a un problème de communication, mais pas que, de compréhension aussi. C'est-à-dire que je me suis rapidement rendu compte, en allant avec des artisans, en allant sur chantier, en passant énormément de temps avec eux, en allant à leurs rendez-vous, en fait, je me rends compte que les clients, quand je dis client, du coup, c'est la personne qui fait réaliser des travaux, que ce soit pour chez lui, pour un tiers, etc. C'est vraiment la personne qui est à l'origine de la commande de travaux. C'est que le client n'est pas sachant, il sait pas à quoi s'attendre, il connaît pas la technique, il connaît pas les prix. À côté de ça, il entend beaucoup de choses. Il y a de la mauvaise réputation. On entend beaucoup de choses à la télé, dans les médias. Donc c'est un peu confus à ce niveau-là du côté client. Et pareil de l'autre côté artisan. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'artisan, c'est quelqu'un qui est à la base manuel, qui sait très bien réaliser les travaux, qui fait des prestations de qualité avec des finitions de bonne qualité, etc. Mais qui va pas avoir en fait tout ce côté administratif, toute cette gymnastique en fait pour comprendre les attentes du client et pouvoir y répondre de manière précise. Donc vraiment, c'est ce qui est assez flagrant, c'est que j'ai deux personnes qui ont envie de travailler, qui ont besoin l'un et de l'autre, mais qui n'arrivent pas à se parler de manière compréhensible pour les deux parties, et ce qui fait que c'est à l'origine de beaucoup de frustration. Après, on parle du côté frustration, du côté un peu négatif, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Hein, c'est attention. Donc, je prends ces exemples-là, mais il y a des chantiers qui se passent très bien aujourd'hui. C'est pas ça le sujet. Là.
Oui, bien sûr. Hein, de toute façon, on prend toujours un peu les points opposés pour pouvoir y répondre, parce que ça arrive d'avoir des points bloquants. Et est-ce que tu aurais des conseils justement par rapport à ça sur ces codes de communication, puisque entre l'artisan et le particulier? Par exemple, je suis un particulier, j'ai envie de communiquer aussi et d'avoir des travaux. C'est quoi les bonnes pratiques, entre guillemets, pour s'adresser à un artisan et pour être sûr que on se fasse bien comprendre, en fait?
Moi, je pense que le plus important quand on veut réaliser des travaux, c'est de préparer. Après toute la phase de préparation, de bien savoir te mettre au clair sur ce que tu veux précisément, que ça soit en termes de prestations, en termes de matériaux, en termes de budget aussi, de définir un budget que tu vas louer à ces travaux. Je pense que c'est ça le plus important, et c'est la phase qu'il faut pas négliger, dont les gens ont tendance à négliger forcément parce que ça prend du temps, ça peut engendrer des frais. Pour moi, c'est le plus important. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de déjà faire la différence entre des petits et des gros travaux. Quand je dis petits travaux, ça va être du dépannage, de la réparation, des travaux qui sont ce qu'on appelle monocorps d'état, donc il faut appel qu'à une seule spécialité. C'est par exemple remplacer une fenêtre, remplacer du carrelage. Ça, c'est des travaux qui sont, on va dire, que je qualifie de petits travaux, où la phase de préparation est quand même moins importante que pour un plus gros travaux à l'opposé, qui serait de la rénovation, c'est-à-dire un chantier qui va durer un certain temps, qui va représenter un certain budget et qui va faire appel à plusieurs spécialités. Donc je pense que c'est important de décomposer les phases. Donc c'est dans un premier temps la préparation, et ça commence par savoir, comme je disais, savoir ce qu'on veut précisément. Après, il y a toute la phase de trouver des prestataires pour faire les estimations. Après, il y a la phase forcément de choix des prestataires ou du prestataire. Et après, on rentre dans tout ce qui est vraiment la partie chantier pure et dure, la réalisation des travaux qui se termine au moment de la réception du chantier. La réception, c'est quand on fait la dernière réunion et puis on valide en fait avec d'un côté le client et de l'autre côté l'entreprise ou l'artisan qui a réalisé les travaux, on valide que les travaux sont bien terminés, c'est ce qui met fin au chantier et à partir de ce moment-là débute la durée des garanties obligatoires dans la garantie décennale.
Ok, ce que je te propose en vrai, ça pourrait être intéressant vu tout le cheminement là que tu m'expliques. un peu, je sais pas si tu as des bonnes pratiques, mais de refaire tout ce cheminement, bah, donc il y a cette phase de préparation. Une fois que tu as fait un peu ta phase de préparation, tu sais que tu dois faire des travaux. Quelles sont en fait les bonnes pratiques pour déjà sélectionner un artisan? Comment tu sélectionnes un artisan et tu trouves un artisan pour déjà le sélectionner, voilà.
Déjà, il faut, c'est le plus important, c'est de savoir à qui il faut s'adresser. Parce que c'est, je vais prendre un exemple pour une rénovation. Il y a globalement deux façons de faire pour un logement. C'est soit on peut prendre un maçon, un peintre, un électricien, un plombier, en fait, tous les corps d'état en séparé et les faire se coordonner ensemble. Ou on peut prendre une entreprise qu'on appelle tout corps d'état, qui va prendre en charge en fait toutes les prestations en interne, qui a les compétences ou qui va sous-traiter les compétences qu'elle n'a pas, mais qui va s'occuper de toute la coordination du chantier. Donc déjà, il y a la première étape, c'est de savoir à qui on veut s'adresser particulièrement, précisément, et déjà s'adresser à la bonne personne. Après, je dirais, faut savoir un peu ce qu'on attend de l'artisan, c'est important, je pense, de commencer comme ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de se faire accompagner dans la définition du projet. Où est-ce qu'on sait précisément, on a déjà les plans et on veut quelqu'un qui exécute. Déjà, ça peut un peu orienter. Après, c'est des conseils qui sont, je pense, naturels et un peu bêtes. C'est un peu de se fier au, comme on ferait pour choisir un garagiste, comme on ferait pour choisir un magasin, par exemple. C'est un peu de regarder les avis, idéalement de se le faire recommander par quelqu'un qui a déjà fait appel à cette entité, c'est toujours mieux. Et dans un premier temps, ça permet déjà de faire une shortlist, on va dire, de qui on peut contacter. Après, ce qui est hyper important, à mon sens, et qui est la première étape avant de commencer toute discussion, c'est de s'assurer en fait que les personnes sont au niveau administratif, sont conformes. Globalement, il y a deux assurances aujourd'hui qui sont obligatoires dans le bâtiment pour des travaux. L'assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est l'assurance qui va couvrir l'entreprise pendant la durée des travaux. Si, je sais pas, si elle vient abîmer quelque chose, si elle vient se blesser, à blesser quelqu'un, enfin, c'est ce genre de cas. Et à côté de ça, il y a l'assurance qu'on appelle décennale, la garantie décennale, qui va en fait garantir les travaux pendant 10 ans à compter de la réception. Donc pour moi, déjà, c'est hyper important de faire un tri entre les entreprises qui ont ces documents et celles qui les ont pas. C'est deux documents qui sont obligatoires dans les travaux. Donc toutes les entreprises qui vont dire non, c'est pas obligatoire parce que je fais que de la rénovation, ou non, c'est pas obligatoire parce que je suis auto-entrepreneur, ça c'est faux, ça n'existe pas. C'est obligatoire dans 100% des cas. Donc déjà, je pense que à partir du moment où on a un peu regardé les avis, on s'est fait recommander les personnes, on a vérifié leurs documents, ils sont à jour et ils sont conformes sur ce point-là. Déjà, on a éliminé beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un de pas sérieux.
De mauvaises expériences ou d'arnaques, parce que j'allais venir. Ça peut faire partie des bonnes pratiques pour éviter, ben, justement, ces types d'arnaques, parfois, dans le bâtiment, qui existent aussi, hein, même si c'est pas la norme, mais ça existe aussi, quoi.
Ah oui, on va pas se le cacher, ouais. Après, un truc que je trouve aussi intéressant de souligner, c'est un peu tout ce qui est, ce que j'appelle un peu les soft skills, c'est un peu toutes les petites tâches, les petites actions qui se passent dans la relation, c'est-à-dire, ben, l'entreprise, vous allez l'appeler, peut-être il va pas répondre, vous allez lui laisser un message vocal. Est-ce que la personne va rappeler après ou pas? Est-ce que pour l'avoir, vous devez l'appeler 5 fois à chaque fois et puis c'est compliqué d'avoir une réponse? En fait, il y a plein de petits trucs qu'on peut analyser et de se dire, ben, peut-être que oui, si déjà avant de commencer le chantier, on a du mal à voir la personne, elle a du mal à se déplacer, on a du mal à prévoir un rendez-vous, peut-être que c'est pas la personne adaptée parce qu'elle a déjà trop de travail en ce moment-là, ou peut-être que c'est pas le moment, ou peut-être qu'elle arrive pas à s'organiser correctement. Donc, il y a quand même, je trouve, pas mal de choses à analyser dans la relation et qui ont des petits détails qui ont une importance, quoi.
Effectivement, oui. Le fait de pouvoir voir la rapidité de réponse ou quand... Mais dans les deux cas aussi, hein, parce que ça peut se faire du côté de l'artisan, mais il y a aussi du côté du particulier. Parfois, on peut voir aussi des contre-cas où l'artisan est présent et c'est le particulier, enfin la personne qui demande à faire les travaux qui n'est plus dans la réaction après, une fois qu'elle a eu le devis, quoi.
Ah oui, complètement. En fait, je pense que tout ce que je raconte sur un peu ces expériences-là et sur ces critères, ça marche dans les deux sens, quoi. Nous, on se rend compte que les personnes qui sont, les particuliers, par exemple, qui nous appellent et qui sont pas prêts à nous donner un rendez-vous pour venir faire les estimations, que c'est un peu compliqué, voilà. On se dit, bon, c'est que la personne n'est pas forcément prête, c'est peut-être pas le bon moment ou je ne sais rien. mais c'est des signes qui montrent un peu que c'est, qu'il peut y avoir des frictions internes. Enfin, ça, on va dire, ça commence mal dans les premiers échanges, ça commence mal, c'est un peu dommage, ça laisse rien à envisager de bon. Et après, il y a ce qui est important aussi, c'est le feeling, hein, tout ça. Après, ça reste une, pour moi, le chantier, en fait, c'est vraiment une relation, hein, entre une personne qui a besoin de faire des travaux et la personne qui sait les faire. C'est une relation, et s'il n'y a pas de bon feeling, si, au premier échange, vous commencez à vous dire, ah ouais, non, il commence déjà à essayer de m'embrouiller, ou alors je le sens pas clair, ou quoi, ben, c'est pas la peine. Après, il n'y a pas de, je pense que c'est aussi très important, parce qu'il faut pas oublier que le chantier, ça dure un certain temps. Donc, autant faire ça avec quelqu'un à qui on peut avoir un bon feeling, c'est toujours préférable.
Est-ce que t'as des astuces au niveau des recherches, je veux dire, je sais pas, des sites pour trouver, des artisans, France comprise, hein, du coup, parce que toi, tu es plus spécialisé, par exemple, dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, le bottin pour trouver des noms d'artisans, etc., quand on n'a pas forcément de contact en direct et qu'on n'a pas forcément de recommandations? Qu'est-ce que tu préconises, en fait, comme type de recherche, quoi?
Après, le plus classique pour commencer, déjà, c'est Google. Est-ce que la personne est visible sur Google? Est-ce qu'elle a des avis ou pas? On regarde un peu les avis. J'aime bien analyser ça. On va essayer de voir est-ce que c'est des vrais avis ou est-ce qu'on se rend compte que pendant 2 mois, il y a eu beaucoup d'avis de plus ou moins des mêmes personnes. Alors, peut-être que c'est un peu biaisé, que c'est un peu triché. Est-ce que les avis sont sur le long terme? Est-ce qu'il y a des avis négatifs ou pas? Déjà, je pense que c'est à prendre en compte. Je dis pas que c'est une science exacte et que la personne qui, l'artisan qui a 0 avis négatif, il va pas y avoir un problème sur votre chantier. Ça, c'est impossible à garantir. C'est pas une science exacte. Mais ça donne une tendance. Déjà, on voit si la personne a beaucoup d'avis négatifs, comme quoi elle fait des malfaçons sur des chantiers, ou alors elle revient pas quand il y a un désordre en plein chantier. Déjà, ça met un peu la puce à l'oreille, et je pense que c'est pas forcément l'artisan adapté. Après, on peut aussi se rapprocher, en fait, de tous des organismes comme la CAPEB, qui est la Fédération des artisans. Je pense qu'il y a aussi, on peut aussi se rapprocher de ce genre de personnes. Ça peut être intéressant. Et un truc tout bête qui peut servir, c'est Facebook, en fait. On se rend compte que dans les groupes Facebook, nous, par exemple, on a des groupes Facebook, j'habite Marseille, tel arrondissement, on se rend compte que très souvent, des gens parlent et se recommandent des artisans. Donc, on voit des messages, « Bonjour, je cherche un serrurier, est-ce que vous avez pas quelqu'un à me recommander ?» Et là, déjà, ça donne un peu une tendance. On voit des gens qui sont recommandés régulièrement, des commentaires un peu des personnes. « Voilà, je l'ai fait appel à cet artisan, ça s'est très bien passé. » Ça peut un peu, c'est pas une science exacte non plus, mais ça peut un peu orienter et se dire, ben ouais, si cette personne est recommandée publiquement sur un réseau social, c'est que certainement il y a déjà plus de chances qu'elle soit sérieuse.
Ouais, qu'elle ait eu des bons avis et des bons retours sur chantier, quoi.
C'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est un peu la même mécanique avec la présence sur Google. Moi je me dis, l'artisan qui met sa fiche sur Google, qui a pas honte de montrer son travail, d'être là présent et entre guillemets se dire, ben moi je fais un travail de qualité, j'ai pas peur d'être présent. Ça donne déjà je pense que c'est un plus dans la recherche.
Non, tout à fait, tout à fait. C'est un élément de réassurance qui est complet, quoi. Quand tu qualifies, toi, les artisans aujourd'hui, par exemple, pour Plateo, est-ce que tu as d'autres critères qu'on pourrait utiliser, entre guillemets, en tant que particulier?
Il y a quelque chose qui se fait un peu, mais c'est des fois compliqué pour des petits chantiers, c'est d'en fait regarder un peu le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les précédentes années. Par exemple, hein, si c'est un chantier et l'entreprise vous propose un devis, je sais pas, 50 000 euros pour rénover votre maison, et que vous vous rendez compte que l'année dernière elle a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'elle va pas être forcément en mesure d'être en capacité, en fait, de gérer ce chantier-là, parce que ça représente ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire en 2 mois, ce qu'elle a fait en un an d'existence. Donc ça peut un peu mettre la puce à l'oreille. Nous, on aime bien regarder ça. Après, nous, vraiment, ce qu'on a besoin, c'est dans le cadre de mon activité, c'est vraiment des entreprises qui sont fiables et réactives. Donc, nous, on analyse, je reviens vraiment sur les soft skills, on analyse vraiment ça. C'est qu'on leur demande de nous envoyer des documents, on leur demande de s'engager à nous rappeler à des moments bien précis. En fait, on voit si les gens sont sérieux. Déjà, nous, ça nous donne des idées sur le sérieux des entreprises.
Au niveau de l'organisation, tout ça, de suivre un petit peu comment ils s'organisent tout simplement dans leur chantier, quoi.
C'est ça, ouais. Pour moi, c'est le plus important, parce que faire des ouvrages, les faire correctement, il y a beaucoup de gens qui savent les faire. C'est de la technique du bâtiment, ça s'apprend dans des écoles, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Beaucoup de gens savent le faire. Mais après, par contre, de communiquer, d'être dans les délais, de, d'être clair, d'expliquer, de prévenir au bon moment. Ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément dans les écoles. Et c'est ça qui est important, qui va faire la différence entre un bon artisan et un très bon artisan qui gère ses chantiers à merveille.
Ok, c'est clair. Et du coup, par rapport justement à l'aspect administratif, on peut en venir un petit peu aussi là-dessus. Au niveau des devis, au niveau des factures, est-ce que tu as des conseils à apporter pour comment vérifier un devis, comment vérifier peut-être une facture aussi, être sûr que voilà, on est dans le bon et qu'on se trompe pas, quoi.
Déjà sur un devis, il y a des mentions qui sont obligatoires. Ça, on peut retrouver la liste sur le site du gouvernement. Il y a des mentions qui doivent forcément figurer sur le devis. Donc déjà, je pense que dans un premier temps, vérifier si elles y sont bien, ça peut être une première chose à faire. Après, ce que je trouve important, c'est au niveau du devis, c'est le détail. C'est qu'un devis, en fait, doit être détaillé par prestation. On va prendre l'exemple d'une rénovation d'une salle de bain. Il doit y avoir un poste, fourniture et pose du carrelage, fourniture et pose du bac à douche. En fait, il faut que chaque prestation soit sur une ligne et détaillée avec un prix qui lui est propre. Aujourd'hui, quand je vois des devis où il y a écrit rénovation de salle de bain, tac, 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 la liste des prestations, et à la fin, un ensemble X milliers d'euros, pour moi, ça marche pas et c'est pas sérieux parce que c'est pas, s'il y a un manque de transparence, et l'artisan, forcément, quand il a fait son devis, a dû détailler, mais pourquoi il communique pas avec le client, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose un peu dessous et je trouve que c'est pas top. Et dans tous les cas, c'est normal, c'est obligatoire de détailler par prestation.
D'accord. Donc forcément, il doit y avoir normalement le détail sur le devis où on est en droit de le demander, quoi.
C'est ça, obligatoirement.
Ok.
Après, pour la facture, c'est un peu plus simple. Il faut s'assurer que la facture est au même montant que le devis, que les mêmes prestations et que vous payez le même prix que ce qui était prévu, quoi.
C'est initialement. C'est un peu plus
simple. Sachant qu'il y a aussi des mentions obligatoires sur les factures.
Ok. Et ça, donc, on peut, ouais, effectivement, le retrouver sur Internet, les mentions obligatoires au niveau de la TVA et tout ça. Tout est TTC de toute façon quand c'est particulier.
C'est ça.
Toute taxe comprise. Je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter qui pourraient aider, mais
peut-être sur les montants les différents taux de TVA.
Alors, est-ce qu'il y a des différents taux de TVA justement en fonction des artisans ou des corps de métier?
En fait, c'est pas ça va pas être en fonction des artisans, mais en fonction des prestations qui sont réalisées. En fait, globalement, il y a trois taux de TVA. Le plus haut, c'est 20%. Après, ça, c'est dans le cas, on va dire, le cas général. Il y a une TVA réduite à 10%. Ça, c'est pour les travaux de rénovation. Il faut que ce soit des travaux qui visent à rénover le bien et que ça soit un bâtiment à usage d'habitation. Donc, ça marche pas pour des bureaux, ça marche pas pour, je sais pas, les espaces extérieurs, on va dire, pour le jardin, ça marche pas. Donc, il faut vraiment que ce soit pour rénover le logement. Là, on est sur une TVA à 10%. Il faut remplir une attestation, ça s'appelle l'attestation de TVA simplifiée. Ça, normalement, c'est l'artisan qui vous l'envoie avec le devis, vous remplissez l'attestation et en cas de contrôle, ça permet de justifier que les travaux visent bien à rénover un logement, le local sert de logement et il faut qu'il soit réalisé depuis 2 ans, qu'il ait au moins 2 ans d'âge. Et après, dans des cas un peu plus particuliers, il y a la TVA à 5,5%, c'est pour les travaux qui visent à améliorer le côté énergétique des logements, et souvent c'est sur des prestations bien particulières, par exemple sur le remplacement de menuiseries, quand on met des menuiseries qui sont isolantes, ou ce genre de choses.
Est-ce que c'est un lien du coup avec ce qu'on appelle la prime rénov ou tout ce qui est rénovation énergétique directe?
Non, ça c'est, pour moi c'est vraiment le cas, ça c'est les cas classiques de TVA, ça s'applique vraiment aux travaux, pour moi c'est vraiment deux choses différentes.
Deux choses différentes. Ok, c'est clair. Et donc on a parlé un peu de vie, on a parlé un peu facture. Aujourd'hui, alors moi j'ai lu une histoire il y a pas longtemps. Je voulais enfin une histoire, un post sur LinkedIn. Je voulais t'en parler. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qui disait justement l'augmentation des prix est un peu en train de nous tuer. En parlant des artisans, un devis qui était à 150 000 euros il y a quelques mois frôle maintenant les 220 000 euros. Aujourd'hui, si vous voulez faire construire votre maison, les devis ne sont plus valables que 2 semaines. Enfin, qu'est-ce que tu penses par rapport avec la conjoncture au niveau des artisans? Comment aussi on peut pallier et aider aussi cette conjoncture et faire que ça aille dans le bon sens, quoi, au niveau des artisans, au niveau des particuliers, au niveau de la relation que ça peut amener aussi, pour qu'il y ait plus cette communication qui intervient justement entre les deux acteurs, quoi.
C'est bien, c'est parce qu'on se ramène toujours à la même étape, c'est la préparation. du devis, enfin du chantier du projet. C'est-à-dire que si on est préparé, qu'on sait exactement ce qu'on veut, que déjà l'artisan peut chiffrer précisément les matériaux qu'on souhaite, les prestations qu'on veut, normalement, une fois qu'on reçoit le devis, si vous êtes vraiment allé au moment où vous voulez faire les travaux, vous pouvez le recevoir et le signer directement parce que ça correspond à ce que vous voulez faire. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une certaine réactivité. Et là, je reviens sur le concept de relation, c'est que très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui commandent des travaux, donc le client, soit un particulier, un professionnel, va avoir beaucoup d'attentes sur la réactivité de l'artisan. C'est-à-dire, voilà, quand on appelle, il faut qu'il vienne vite, il faut qu'on reçoive vite le devis, il faut que le chantier puisse vite commencer. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Il faut que le client soit réactif, qu'il prenne en compte que, en fait, c'est les artisans qui sont tributaires des fournisseurs. Donc, c'est pourquoi le devis est valable souvent 2 semaines. C'est parce que les prix du fournisseur sont valables eux aussi 2 semaines. Donc, l'artisan est obligé de se calquer dessus. Donc, en étant réactif et en comprenant qu'il y a ce délai-là à respecter, forcément, ça se passe mieux et c'est plus fluide. C'est vraiment sur ce concept de relation, c'est qu'on sait bien d'attendre quelque chose de l'artisan, mais c'est aussi bien de comprendre que l'artisan attend quelque chose de vous. Et là, c'est là où on revient aussi sur la communication, c'est que c'est à l'artisan aussi d'expliquer pourquoi son devis est valable que 2 semaines, de bien le mentionner et que ça soit pas simplement un petit astérix en bas du devis, en tout petit, que le client voit pas. Et oui, dans ce cas-là, ça crée de la frustration pour rien. Donc, c'est vraiment communiquer et essayer de comprendre les problématiques des autres pour mettre la réponse adaptée en face.
En termes de, enfin justement aussi au niveau des délais, parfois c'est vrai que les chantiers, donc on les anticipe, donc c'est pas toujours évident de se dire bon bah là au 20 septembre par exemple on est à tel prix dans 15 jours, dans un mois, si je veux commencer mes travaux, et comment être sûr que ce sera les mêmes tarifs ou les mêmes comment on peut se dire que on peut accepter ce devis aussi alors que ça peut potentiellement évoluer, quoi.
Ben ça, en fait, pour moi, c'est à partir du moment où le devis est accepté dans sa période de validité, c'est à l'artisan de se débrouiller pour maintenir ces prix-là, parce que le devis a été signé dans la période dans laquelle il était correct, il était bon, il était au bon indice. Après, c'est à lui, du coup, d'accepter les devis de ses fournisseurs, de peut-être récupérer certaines marchandises, ou en fait de s'organiser pour maintenir ce prix-là, parce que contractuellement, c'est ce qui est arrêté. Après, aujourd'hui, ça se passe comme ça, parce qu'on a des variations qui sont pas forcément à la journée, où on a encore un peu de marge de manœuvre. Après, demain, je sais pas comment ça va évoluer, mais aujourd'hui, ça marche comme ça.
Ça se passe comme ça. En tout cas, juste pour clôturer sur ça, aujourd'hui, l'artisan n'a pas le droit d'augmenter son devis en cours de route une fois que ça a été signé à un tarif.
Non. Le but, c'est un contrat. C'est le devis, pour moi, c'est vrai. C'est un contrat. C'est avec des dates qui ont un début et une fin. Donc, à partir du moment où c'est signé, on reste sur ces prix-là. Il y a peut-être, je sais pas, si en cours de chantier, il y a un changement de matériaux, un truc comme ça, ça peut arriver. Ben, forcément, on sera plus sur les mêmes prix. Mais si on reste sur les prestations définies à la base, normalement, on reste sur ça pendant toute la durée du chantier.
OK, c'est clair. Et un autre cas, hein, là je me fais l'avocat du diable, mais c'est pour justement voir s'il est comment gérer justement certaines situations qui peuvent arriver. Par exemple, j'ai un artisan avec qui je contractualisais, ou enfin que j'ai commencé au moins à verser des arts, qui ne me rappelle pas, et qu'est-ce que je fais en fait? Quelle possibilité j'ai si jamais j'ai mon artisan qui ne me rappelle plus ou qui ne me contacte plus, quoi?
Donc, tu veux dire qu'il a commencé le chantier et puis au bout d'un moment, il arrête, plus de nouvelles, silence radio?
Oui, ou même on a signé le devis, on a peut-être, je sais pas, versé une première partie du paiement pour un acompte ou quoi que ce soit, et puis après, pas de rappel, ou même peut-être pas d'acompte, hein, mais on n'a plus de rappel et on a besoin d'avoir les travaux. Quelles sont nos possibilités aujourd'hui, quoi?
À mon avis, déjà, s'il y a pas d'acompte et que la personne ne te donne plus signe de vie une fois que tu as signé, que vous êtes d'accord sur un truc, elle disparaît du jour au lendemain, je pense que c'est un mauvais signe et que tu peux, du coup, malheureusement perdre du temps, mais au moins choisir une entreprise qui pourra mener à bien le projet. Après, s'il y a un acompte qui a été versé, s'il y a déjà des choses qui ont été engagées, c'est plus compliqué. Je pense que dans un premier temps, il faut pas, parce que moi, je prends aussi l'avocat du diable, mais de l'autre partie. Il faut pas non plus paniquer. ça qui est intéressant. Je pense qu'il faut pas non plus paniquer et au bout de une heure après à pas avoir eu de réponse, commencer à appeler tout le monde, appeler la police et tout. Donc, faut quand même aussi laisser le temps et se dire peut-être que si l'artisan met 24 heures à répondre, c'est peut-être, je sais pas, qu'il a eu un souci, qu'il s'est blessé ou j'en sais rien. un souci personnel. Donc, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est important de laisser la place au doute dans un délai qui est convenable. Il ne faut pas, au bout de, faut pas attendre un mois non plus avant de s'alarmer. Mais voilà, ça, nous, en fait, ce que, je, pourquoi je dis ça, c'est parce que des fois, j'ai eu des personnes qui m'appellent et qui me disent, voilà, qui est un peu énervées, un peu frustrées, vraiment pas dans un bon état d'esprit, qui m'appellent, voilà, j'arrive pas à la voir et je l'appelle plein de fois, j'arrive pas à la voir. Ok, donc moi, je pose un peu des questions pour mieux comprendre. Donc, vous l'avez appelé quand? Ah, ben, je lui ai laissé un message il y a une heure. Bon, vu qu'il est 15h de l'après-midi, peut-être qu'il est en train de travailler sur un chantier, peut-être qu'il a les mêmes pleins de ciment, donc il peut pas répondre. Donc, ça arrive. Pareil, après, ce qui arrive aussi, c'est que j'appelle l'artisan ben, pour savoir ce qui se passe, comment ça se fait qu'il répond pas. En fait, on apprend que le client l'appelle tous les jours, 4 fois par jour. Donc, l'artisan, en fait, il en a marre, il pète les plans, il dit, bon, ça y est, j'arrête, je le blacklist. Donc voilà, il y a des choses à remettre dans son contexte. Après, forcément, quand ça arrive et qu'on est dans cette situation-là, ben, il faut, je pense, faire appel à des autorités compétentes. Je sais qu'il y a des organismes qui font de la médiation, qui essaient déjà de trouver une solution avec ça, essayer de trouver une solution à l'amiable, on va dire. Ce qui est pas mal, c'est que quand c'est quelqu'un qui a été recommandé, ben, peut-être demander à la personne qui nous l'a recommandé d'essayer de prendre contact de son côté, peut-être qu'il y a une explication, peut-être que voilà, c'est un peu essayer de dégrossir, de comprendre. Et après, c'est faire appel, rentrer en procédure, en fait, ouais. En fait, en France, on est protégé par la loi à ce niveau-là. Donc, c'est appeler les personnes compétentes et lancer des procédures dans ce sens-là.
Dans le cas, oui, le plus négatif, quoi. Ouais.
C'est ça. Après, il faut penser toujours à l'intérêt qu'on a dans cette situation-là. Le but, c'est de mener à bien les travaux. Si on trouve une solution à l'amiable à l'avance, c'est mieux que de partir dans des procédures qui durent longtemps et qui sont chronophages, qui prennent de l'énergie et qui occupent l'esprit pendant un certain temps.
Oui, non, tout à fait. De toute façon, il vaut mieux essayer de trouver une solution d'abord en direct avant de partir dans des, oui, comme tu dis, des grandes procédures qui parfois peuvent mettre longtemps avant d'avoir des résultats, quoi.
C'est ça.
Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près tout le cheminement quand on souhaite contacter un artisan, quelle relation avoir. Est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer là-dessus?
J'avais quelques points, je pense, qui sont importants de souligner. C'est un peu en mode revendication, tu sais.
Vas-y, je t'écoute. Je te laisse la parole, Romain.
Non,
revendique.
Non, je plaisante. En fait, il y a quelque chose qui est important, je pense, de comprendre. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui a besoin de faire réaliser des travaux n'a pas, au niveau du prix des travaux, n'a parfois pas conscience de ce que ça peut coûter. On sait pas trop les artisans combien ça gagne, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un artisan, déjà en France, en moyenne, facture 50 euros hors taxes par heure. Donc, si vous multipliez ça par le nombre d'heures dans une journée de travail, on commence déjà à être sur un certain prix. Donc, ce que je pense qui peut être, ce qui est important, c'est d'essayer d'intégrer les artisans dans la démarche. C'est que aujourd'hui, si vous voulez, refaire l'intégralité de votre logement parce qu'il est plus à votre goût, etc., et que vous n'avez aucune idée du budget que ça représente, ça peut être bien dans un premier temps, avant de faire venir quelqu'un qui va faire des mesures, qui va faire ses devis, qui va prendre du temps, de pouvoir aussi déjà lui demander des ordres de grandeur, par exemple, prix au mètre carré moyen ou ce genre de choses pour déjà un peu dégrossir et voir si on est en accord avec ce que ça demande. Parce que dans tous les cas, faire des travaux dans les règles de l'art avec les bonnes garanties, c'est un prix minimal, quoi. On pourra jamais descendre au-dessous d'un certain prix. Donc, je pense que ça peut être important, en fait, pour prendre conscience, en fait, qu'un artisan qui fait un devis, c'est pas parce que le devis était gratuit que ça représente pas des sous, en fait, pour l'artisan. C'est un truc qui est pas très intuitif, mais un artisan qui va faire un devis, il va se déplacer, il va venir sur place, il va prendre le temps de vous écouter, de discuter avec vous, de vous conseiller, de faire les mesures, il va rentrer chez lui, il va taper son devis, il va faire appel à ses fournisseurs. Enfin, c'est assez lent en termes de temps. Donc, ça fait partie de la démarche commerciale de l'artisan, mais il faut comprendre et être conscient que c'est un certain coût. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que les clients soient conscients que c'est quelque chose de demander un devis et que de faire des devis pour faire des devis pour essayer de chercher le moins cher, ça sert à rien, ça fait travailler des artisans pour rien, le temps qu'ils vont passer pour entre guillemets pour faire plaisir ou pour du coup sans valeur ajoutée, c'est du temps qu'ils vont pas passer pour traiter des vraies problématiques chez leurs autres clients. Donc c'est, je pense, des choses vraiment vraiment importantes à prendre en compte. Après, moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'à partir du moment où on fait des appels à des entreprises fiables, au bout de 3 devis, c'est bon. Je pense que ça sert à rien d'en faire 4, 5, 6, déjà même 3, des fois, c'est beaucoup. Voilà, c'est prendre conscience que ça représente quelque chose. Après, si au bout de 3 devis, vous n'en avez aucun qui correspond à vos attentes, que c'est 3 devis qui sont pas détaillés, oui, faut en faire d'autres. Mais voilà, j'ai beaucoup, je rencontre des gens qui me disent, ouais, j'ai fait 10 devis pour ça. Mais en fait, voilà, en faisant 10 devis, vous avez pris le temps de 9 artisans pour rien. Et ça sert à personne, en fait, à mon sens.
Ouais, donc le grand conseil ici, c'est de qualifier aussi dès le départ. Quand on cherche un artisan, on fait notre recherche en amont, on qualifie, on regarde peut-être, comme tu disais, bah, les avis, si c'est bien à côté de chez nous, si ça correspond à peu près à des chantiers qu'on aimerait faire chez nous. Et puis peut-être effectivement de demander 1, 2, voire 3 devis pour voir ce qui peut correspondre, quoi. Mais d'éviter de prendre du temps supplémentaire à des gens qui n'ont pas forcément le temps aussi de toujours répondre correctement. Donc c'est vrai. Exactement. Que c'est une bonne pratique, comme tu dis.
Pas hésiter à se faire conseiller, mais quand on ne sait pas, demander. Je veux remplacer, je ne sais pas, demain j'ai une fenêtre qui est un peu qui laisse passer du froid, je veux remplacer ma fenêtre. Bah, c'est peut-être demander déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire plus ou moins combien ça peut coûter, sachant qu'elle fait 1 mètre par 2 et que c'est du PVC. Déjà dans un premier temps, ça évite, parce qu'au final, je sais pas, ça coûte 1 500 €, enfin j'ai une bêtise, ça coûte 1 500 €. Si vous avez un budget que de 500 €, tout le chemin de l'artisan de venir mesurer, de faire son prix et tout, il s'arrête. Dès que vous recevez le devis, en une seconde, c'est terminé, il a fait ça pour rien. Donc autant le prévoir en amont et gagner du temps, faire gagner du temps à tout le monde.
Oui, non, complètement. Complètement. Je suis d'accord. Ça remettrait aussi un peu plus peut-être de temps et de communication aussi dans les relations. Et ça énerverait peut-être un peu moins les interlocuteurs quand on passe du temps pour rien, hein, tout simplement.
Ça frustre et c'est bon pour personne.
Tout à fait.
Et après, un truc important aussi, qui est revenu souvent quand ça commence à se passer mal, c'est tout bête, mais c'est comme j'ai une relation, faut penser que c'est des humains qui viennent travailler chez vous, c'est des gens qui vont se lever le matin, qui vont se préparer, qui vont aller travailler comme tout un chacun. Un truc qui est tout bête, c'est offrir un café. Très souvent, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand ça commence à se passer mal, que ça dérive, qu'en fin de chantier, voilà, très souvent, ce que me dit l'artisan, c'est, ouais, mais moi, ça fait 3 semaines que je vais chez lui tous les jours, il m'a jamais offert un café, jamais un verre d'eau, limite, il m'ouvre la porte. C'est bête, mais ça permet de montrer à l'artisan, mais que vous le considérez, que vous avez un respect pour son travail, sa personne, lui va se dire, ok, la personne est gentille, je dis pas de lui préparer un sandwich tous les jours, de l'inviter à manger le soir, c'est pas du tout ça. Mais voilà, des petites attentions comme ça, vous avez pas soif, surtout quand il fait chaud en été, voilà, vous avez pas soif. Et je peux vous dire que vraiment, pour avoir été sur chantier, parce que j'étais à un moment où j'étais avec un collègue qui est paysagiste, j'ai fait des chantiers avec lui en tant que manœuvre. Dans la tête, on a envie de faire un travail qui est plus abouti quand la personne est assez plus ou moins sympathique et qu'elle nous propose de remplir nos gourdes quand il fait 45 degrés à l'ombre en été. Donc ça donne à l'artisan l'envie de se dire, bah oui, la personne est sympa, elle m'accueille bien, je vais faire quelque chose de mieux. Et puis s'il y a un petit truc à faire, une petite bricole en plus, je vais peut-être la faire pour rendre service. C'est vraiment donnant, c'est veiller à ce que leur relation soit au top.
C'est rajouter de l'humain aussi. Hein. On est dans une relation d'humain, hein, dans le bâtiment. Hein. Donc, ça vaut aussi pour les gens qui viennent chez nous faire des travaux, quoi.
C'est ça. Mais c'est important parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Souvent, on a l'impression que... Je pense que beaucoup de gens ont l'impression que, souvent, où ils payent, la personne doit quelque chose et puis c'est un retour. Mais non, c'est de l'humain, c'est une relation. Et c'est important que ça se passe bien. Et c'est d'autant plus important que si c'est ce qui peut arriver, il y a quelque chose un problème qui se déclare après le chantier. Si vous avez envie d'appeler l'artisan pour lui dire attention, je sais pas, j'ai une plainte qui s'est décollée, l'artisan aura plus envie de revenir si vous avez été gentil avec lui, accueillant et sympa pendant toute la durée du chantier, que au contraire si tout le chantier c'était un calvaire, que à la fin l'artisan a dû courir après pendant 6 mois pour être payé, que ce genre de choses, l'artisan voilà, il n'est pas dans un état d'esprit où il a envie de se dépasser, de prendre du temps sur soi pour venir régler des petits problèmes. Donc c'est donnant, et sur le long terme, ce sera toujours mieux.
Non, c'est complètement vrai. C'est de toute façon remettre de l'humain. Nous pendant l'été, c'est pas chez moi, mais chez une personne que je connais, on donnait des glaces aux artisans. Mais ben, c'est pareil, ça fait toujours plaisir, quoi.
Bien sûr. Quand on fait un ratio sur le prix du chantier, c'est quoi? C'est 0,001% du prix du chantier.
Oui, et puis ça fait plaisir, et puis on passe un bon moment, on discute deux minutes, et puis après, voilà, on passe à autre chose.
Voilà. Tu sais que demain, si la personne a un souci, ben, elle rappelle l'artisan, dans sa tête, il se rappellera, voilà, elle a été très gentille avec moi, elle m'a donné une glace, on a discuté cinq minutes, c'est bon, j'y vais.
Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoute, Romain, je te propose qu'on passe à la phase action. À partir de maintenant, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour du sujet autour des artisans. Et puis, on va pouvoir justement compléter dans cette phase. Si tu es d'accord, on y va. Je lance le jingle. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Du coup, nos auditeurs, ils ont des travaux à réaliser. Hein, de toute façon, c'est toujours un peu la problématique. Est-ce que tu as un ultime conseil super concret à leur donner pour trouver, je sais pas, des artisans de confiance près de chez eux, un dernier conseil au niveau des artisans et de créer cette relation de confiance, quoi.
Vous leur offrez du café. Dès qu'ils arrivent, ils boivent un café, un verre d'eau. Non, je fais. C'est un... je pense que, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, parce que là, on a quand même donné pas mal de conseils sur la sélection et sur la relation. Mais quelque chose qui est souvent négligé, c'est la phase de préparation, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, surtout quand c'est un chantier qui fait des travaux qui sont assez importants, comme une extension, une rénovation, des choses voilà qui vont durer un certain temps, c'est que dans ce cas de figure, il y a des interlocuteurs qui ne sont pas des artisans, qui ne sont pas les personnes qui vont vous faire les travaux là, qui vont les réaliser, mais qui vont intervenir à des phases qui sont hyper importantes et plus au niveau en fait de la conception. Moi, un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est une personne qui m'appelle, qui me dit je veux faire une extension chez moi, donc qui est très bien. Et puis bon, forcément moi je commence à poser des questions un peu très souvent on commence à voir la même chose, quel budget, les questions sont toujours pareilles, c'est où vous en êtes dans le projet, est-ce que vous avez déjà déposé les autorisations d'urbanisme ou pas, quel budget vous avez et quand c'est que vous voulez commencer les travaux. Et en fait, en creusant un peu, la personne m'explique que déjà elle a déposé aucune autorisation, donc elle sait pas si ça va être accordé par les services d'urbanisme de sa commune de faire cette extension ou pas. Donc déjà, elle prend un risque à faire venir des artisans, à faire chiffrer, et peut-être que la personne en face à la mairie va dire non, c'est mort, on fait pas l'extension, et là, ce projet s'arrête, tout le monde a perdu du temps. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a surtout de bien définir, c'est que la personne, absolument, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire comme rénovation, est-ce qu'elle a fait des plans, est-ce qu'elle a fait un cahier des charges, elle m'explique que non, qu'elle a pas envie en fait de faire appel à un architecte parce que ça va lui faire des dépenses en plus, et que du coup, elle va essayer de se débrouiller en appelant un peu des maçons, des peintres, des électriciens. Enfin, elle va essayer un peu de faire son micmac de son coin et coordonner tout ça. En fait, ça, pour moi, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que déjà, de coordonner des artisans, c'est un métier. C'est le métier de maître d'œuvre. C'est ce que je faisais avant. C'est quelque chose que les gens se disent, ben voilà, le peintre, il connaît un peu l'électricien, ils vont se coordonner, ils vont se parler, ils vont s'appeler le soir. Ça marche pas du tout. S'il y a pas quelqu'un sur chantier qui fait la coordination, qui est là, qui fait des plannings, qui presse les artisans, qui leur met des délais, ça marche pas, c'est pas magique. Donc je pense que c'est important si on veut prendre des artisans, faire ça encore d'état séparé, prendre un artisan dans chaque catégorie et les faire travailler ensemble, il faut un maître d'œuvre. Et surtout en amont, il faut des plans, en fait, des plans et un cahier des charges, il faut savoir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que là, dans cette histoire, la moralité, c'est qu'au final, la personne montre un peu les devis qu'elle a reçus. C'est n'importe quoi. Il y a deux devis qui sont pas sur la même surface. Donc, elle va comparer des devis qui sont pas faits sur la même surface où il y a 10 mètres carrés en plus ou en moins. Donc, c'est au prix du mètre carré, c'est rien à voir. Pas sur les mêmes prestations. Et puis, en fait, ce que j'expliquais, c'est que les artisans, c'est pas leur métier de faire de la conception. Eux, ils sont dans la réalisation. Ils savent pas conseiller. Au mieux, ils vont vous conseiller sur les solutions qui vont les arranger à eux en général. Donc, c'est pas leur métier, c'est pas là où ils sont bons, c'est pas leur domaine de compétence. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Donc, c'est soit un architecte et après un maître d'œuvre pour la gestion du chantier si c'est encore d'état séparé. ou alors c'est soit un architecte et une entreprise générale, ou soit des fois il y a des entreprises générales qui ont leurs services, leurs architectes en interne et qui vont faire de A à Z. Mais c'est savoir en fait bien identifier qui sont les acteurs et à quel moment ils vont intervenir et être sûr en fait que sur la chaîne de A à Z, on est vraiment les bonnes personnes au bon moment. Sinon, c'est voué à l'échec.
Complètement. De se dire vraiment ce projet doit être réfléchi en amont et souvent on cherche à squeezer toute la phase plan architecte parce qu'on se dit que c'est des coûts supplémentaires mais parfois c'est des coûts sauvés aussi puisque la solution elle est réellement pensée et puis ça évite des allers-retours inutiles quoi donc et puis des déceptions aussi à la fin de chantier parce que on n'a pas eu finalement ce qu'on souhaitait réellement.
Ben voilà. Frustration.
Donc,
moi, je voulais la douche plus dans l'angle. Pourquoi vous ne l'avez pas mise dans l'angle? Après, oui, vous parlez. Le problème, c'est qu'après, les gens parlent sur des sans base. Donc, oui, un jour, ils vont voir ce chantier, ils vont me dire la douche, tu me la mets là. Si l'artisan, il ne l'a pas bien compris ou il s'est dit, je vais lui mettre un petit espace parce que je pense que c'est mieux, voilà, ça crée de la frustration pour rien. Alors que s'il y a un architecte qui a fait un plan, il n'y a pas de sujet, c'est dessiné, la douche, elle est là. Et puis voilà, c'est.
Ouais, non, mais. c'est beaucoup plus clair. Ok, super, merci pour ce conseil. Là, j'ai une question un petit peu plus personnelle pour toi. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal, ta solution idéale?
Moi, je pense que c'est très personnel, à mon avis, ça doit être lié à la personnalité, on va dire. C'est que moi, j'ai envie d'avoir ce qui m'intéresse en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de sujets en fait de consommation d'énergie, d'électricité, de gaz, etc. Et moi, je trouve, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de visuel sur ça. J'ai aucune idée de ce qui consomme beaucoup chez moi. En fait, je sais pas. J'imagine que la clim, ça consomme plus que le chargeur de mon téléphone. Mais bon, j'ai pas vraiment de données sur ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où les problématiques de consommation, c'est évident, c'est des choses qu'il faut régler. Moi, mon bercail idéal, c'est vraiment de quelque chose qui où je maîtrise les consommations, à la limite, je peux savoir en temps réel ce qu'ils consomment, et en fait, ça me permettrait de pouvoir les réduire en sachant sur quel levier activer, sur quoi travailler et quoi modifier dans mon logement. Donc, je pense que c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Après, forcément, j'ai mon bercail idéal, je reprends un peu l'exemple, j'ai écouté le podcast de l'épisode 1 avec Jacques. Où on part forcément sur un mas rénové avec une belle maison qui a du cachet, mais forcément ça fait rêver. Ça fait rêver aussi. Tout le monde après.
Mets-toi de pair avec Jacques si nous l'écoute cet épisode. parler de vos projets respectifs.
J'espère on va allier les deux, le côté esthétique et le côté fonctionnel, comme ça on arrivera sur quelque chose.
Réduction d'énergie avec la petite maison en pierre, au moins.
C'est ça. Mais globalement, ouais, moi, je l'orienterais sur ça, c'est pouvoir en fait réduire au maximum les coûts de fonctionnement.
Oui.
Qui sont pas, en général, pas pris en compte. On pense toujours aux coûts de construction. Donc oui, on va y aller sur du pas cher. Mais si après en consommation, on consomme énormément plus que si on avait choisi d'autres matériaux, moi, je trouve ça dommage.
Ok. Et pour le mesurer, tu passerais par la digitalisation, par exemple, ou des... pour pouvoir mesurer ou tu as des idées ou pas? Là, je pars trop loin.
Non, c'est plus une vision dans un monde idéal.
D'accord.
Et j'imagine que ça passe par tout ce qui est domotique, par tout ce qui est calcul en temps réel. Je pense que c'est okay. Ça.
Et si jamais tu te renseignes sur des solutions, tu pourras venir nous en reparler.
Avec plaisir.
Dans ce podcast. Je voulais savoir si tu avais aussi des ressources pour t'informer, des newsletters, des chaînes, des livres, des invités que tu aimerais peut-être voir aussi sur ce podcast. Est-ce qu'il y a certaines ressources que tu aimerais avoir sur Aubercail et que tu n'as pas encore vues?
J'avais un invité, mais il est passé dans l'épisode 1.
Encore lui, sacré
déjà,
Jacques.
C'est déjà fait, le fameux. Non, mais moi, ce que je trouve compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir des sources fiables, qui balayent les sujets en profondeur. Et en fait, moi, aujourd'hui, hormis me documenter sur les médias BTP classiques comme le Moniteur ou ce genre de choses pour être vraiment en fait au courant de ce qui se fait, des tendances, un peu des innovations, j'ai pas vraiment de source où je vais aller chercher, piocher une information, vraiment quelque chose de concret qui va englober un peu toute la problématique. Donc vraiment, c'est pour ça que quand tu m'as parlé du projet Obercaï, je trouve que ça a vraiment du sens dans cet état d'esprit. C'est pouvoir un peu regrouper tout et avoir une vision assez globale que, par exemple, si aujourd'hui on va sur, on se documente, je sais pas moi, sur réduire sa consommation d'énergie, on va tomber sur des sites qui vendent des solutions de réduction de consommation d'énergie, donc qui à mon sens sont forcément orientés et qui vont pas traiter le problème dans sa globalité. Donc je pense
qui ont un discours peut-être plus commercial.
C'est important d'avoir.
Ouais.
Vraiment, c'est aujourd'hui, c'est un constat que je fais sur internet et sur d'autres sujets, c'est que quand c'est du commercial, c'est forcément, à mon sens, c'est forcément biaisé, ça amène forcément vers des intérêts propres. Donc d'avoir quelque chose de généraliste, je trouve ça qui balaye tout et qui a pas de parti pris, je trouve que c'est important.
Ok, donc tu recommandes Obercaï.
Ben forcément, sinon je serais pas là aujourd'hui. Mais je suis tombé sur un truc assez surprenant. C'est Laurent Merlin qui a un site qui s'appelle leroymerlinsource.fr et qui fait un peu de recherche d'innovation, qui met en avant des initiatives. Et je connaissais pas, je suis tombé sur ça récemment, là, la semaine dernière, et je trouve ça vachement, vachement pertinent. Donc, je me suis abonné à leur newsletter, et puis, en espérant que ça aide un peu à avoir une visibilité sur ça et à connaître un peu ce qui se fait, quoi. Je pense que c'est ça qui est important aussi.
Je le noterai dans les ressources si ça peut intéresser.
C'est ça, mais pas Leroy Merlin classique ou sur le bricolage, c'est Leroy Merlin Source. Ils ont sorti je sais pas comment ils ont structuré ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment sur l'innovation dans le BTP, sur de nouvelles solutions et sur un peu trouver des alternatives à ce qu'on fait de manière
classique. Ok, super. Bah, j'irai faire un tour, j'irai voir ça. C'est toujours intéressant en vrai de mettre en avant. Hein. Plus on est nombreux, mieux c'est. Hein.
C'est ça. Et puis de voir que des acteurs quand même assez gros et assez reconnus au niveau national s'impliquent dans ça, je pense que ça montre qu'il y a une dynamique et ça, je pense que ça collabore à la faire augmenter et à rassembler de plus en plus de monde.
Ok, bah super, merci beaucoup pour ces ressources. On vient à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut te contacter si on a envie de te poser des questions, te retrouver, un site
Oui, il y en a pas mal. Non, globalement, notre site internet, enfin, le site de mon entreprise, plateo.fr.
Ok.
PLATEO, il n'y a pas d'accent sur le E.fr. Sachant que là, il y a notre adresse mail, il y a même mon numéro de téléphone dessus, il y a un formulaire de contact. Après, moi, j'essaie d'être joignable sur le réseau, sur LinkedIn, par exemple. Puis globalement, je pense que à partir du moment où vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, mon LinkedIn, c'est déjà pas mal.
Il y a moyen de te contacter, effectivement. Et ben écoute, j'ai plus qu'à te remercier. J'ai une dernière petite question. Du coup, bah avec Plateo, bah vous avez cette mission de remettre du sens social. C'est un peu la petite question de fin. En créant ce lien de confiance entre les artisans, les tuteurs et en la charge des personnes du coup sous tutelle ou curatelle. Est-ce que vous avez d'autres projets en développement c'est quoi l'avenir pour Plateo?
Ben, nous, en fait, on est arrivé par le cheminement de l'entreprise, on est arrivé à se spécialiser dans les travaux pour les personnes sous tutelle, curatelle. C'est ce qu'on appelle sous mesure de protection. C'est pas très connu, donc c'est très spécifique. Et en fait, on a réussi à acquérir une certaine expertise, une expertise travaux chez des personnes qu'on qualifie de vulnérables, en fait, qui pouvaient pas faire appel à des artisans, qui ont du mal surtout à faire appel à des artisans par eux-mêmes. Donc en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a cette expertise-là, c'est qu'on a développé tout un service autour de ça pour gagner en efficacité, être sûr que ce qu'on fait, ça soit adapté aux besoins des personnes. Donc aujourd'hui, dans l'avenir, ce qu'on va faire, c'est continuer à développer ce service-là et l'améliorer en continu. En fait, pour moi, vraiment, c'est des engrenages mis bout à bout. Et donc plus on va mettre d'huile dedans, plus ça, mieux ça va fonctionner et mieux ça sera bénéfique. Tout le monde. Et le but, en fait, nous, c'est vraiment de devenir un acteur incontournable dans les travaux pour les personnes vulnérables, pour dans le social, on va dire. En fait, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on travaille pour les personnes sous mesure de protection. Ça marche très bien. On a les artisans conformes et c'est pourquoi pas pouvoir les mettre à disposition d'autres personnes qui en ont besoin. Je sais pas, peut-être des personnes qui sont handicapées ou tout d'autres publics en fait qui vivent dans des logements qui ont besoin de les entretenir comme tout le monde et qu'on pourrait aider dans ça. Donc on veut vraiment en fait élargir un peu le périmètre de nos utilisateurs pour le mettre à disposition du maximum de monde et avoir le plus d'effet sur les personnes et sur la société, tout mais en restant quand même dans les travaux, avec ce côté social qui maintenant, moi, en fait, à partir du moment où je suis parti dans cette spécialisation, où ça a donné ce sens à mon projet, à mon entreprise, je veux pas m'en défaire et je veux rester dans ça.
C'est hyper important. En tout cas, on souhaite un bel avenir à Plateo. Merci. Et plein de projets, plein d'évolutions. C'est vraiment une très belle boîte. Donc, merci à toi, en tout cas, Romain, d'être venu sur le podcast. Et puis, à très vite. Hein.
Merci à toi pour l'invitation, surtout. Hein, c'était super, super moment.
Bon, vous l'avez entendu, on a bien rigolé avec Romain. Encore merci pour ton passage chez Robert Kay. Moralité de l'histoire, offrez un café aux artisans. Bon, si je devais retenir trois choses importantes de cet épisode, ce serait que quand je commence un projet, faut que je me pose la question, est-ce un petit ou un grand chantier ? Et en fonction de cela, à qui je vais m'adresser ? Un artisan spécialisé ou un tout corps d'État pour réaliser l'ensemble de la prestation ? Ensuite, en vient la phase de préparation. Il faut que j'anticipe en prévoyant la conception de mon projet. Donc les artisans sont là pour réaliser, pas forcément pour concevoir. Donc pensez pour ça aux architectes ou aux maîtres d'œuvre par exemple. Il faut aussi que je prévoie une estimation du budget et le délai que je souhaite pour exécuter mon chantier. Pour sélectionner des artisans de confiance, Romain nous conseille de regarder aussi les avis et recommandations sur les réseaux, s'assurer qu'ils sont conformes administrativement, c'est-à-dire parfois sur les assurances, et observer également les soft skills. Donc pour ça, ça peut être s'il vous rappelle, si le contact est bon, si le feeling est bon. Pour finir, il faut se dire que 3 devis, c'est ok, mais rien ne sert de demander plus. Ça fait perdre du temps à tout le monde, et puis ça évite les frustrations. Et enfin, si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Robert Kay en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et si on co-crée Robert Kay ensemble ? Si tu te dis « Oh non, l'épisode est déjà terminé », tu peux vite nous retrouver sur le site www.robertkay.co et y retrouver tous les sujets abordés dans ce podcast. À très vite !